Il y a eu bien évidemment plusieurs apparitions de Jésus à ses disciples. Et je vous propose de méditer ce matin sur une de ces apparitions, mais on va le faire d'une manière un peu différente, dans le sens que, vous savez, c'est un petit peu comme ces séries où, à un moment donné, il y a un épisode qui est très très important, et puis cet épisode, il est en deux parties. Eh bien, aujourd'hui, il y aura une première partie, et si vous voulez connaître la suite, eh bien, il faudra revenir dans 15 jours, parce que Marc fera la deuxième partie. Alors, je vous propose tout de suite de venir à la lecture du texte de notre du jour. Je vais vous le lire. Il se trouve en Jean au chapitre 21. Voilà. En Jean au chapitre 21. Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous allons avec toi, lui dirent-ils. Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever. Et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela. Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson? Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, C'est le Seigneur. En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Venez, mangez, leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, Qui es-tu? Ils savaient que c'était le Seigneur. Il s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même avec le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. C'est la fin de la journée. Vous êtes en voiture et vous vous apprêtez à rentrer chez vous. C'est peut-être la fin d'une longue journée chargée de travail. Vous voyez, ce genre de journée, ou peut-être tout simplement une journée bien chargée en activités diverses et variées, et vous êtes vraiment claqué à l'issue de cette journée. Et dans votre voiture, là, quand vous êtes en train de rentrer chez vous, bien, vous pensez à ce moment où vous allez pouvoir vous plonger dans un bon bain chaud pour vous relaxer et vous mettre ensuite confortablement dans votre canapé pour vous détendre un peu à l'issue de cette journée qui vraiment, vraiment vous a fatigué. Et c'est encore l'idée de toutes ces pensées bien bienfaisantes que vous vous apprêtez à franchir le seuil de votre maison quand tout d'un coup votre conjoint surgit et vous dit « Surtout ne va pas dans la salle de bain, il y a une fuite d'eau. Ah, » Et puis « Surtout ne va pas non plus dans le salon parce que le chien a poursuivi le chat et puis ils ont mis un bazar monstre. » Alors ben là, c'est la mauvaise surprise, c'était inattendu. Vous qui espériez bien vous détendre et vous relaxer, ben, tous les plans que vous aviez échafaudés, ben, ils s'écroulent. Et vous aimez les surprises? Quand les surprises, elles sont agréables, quand l'inattendu qui se produit est apprécié, ben oui, bien évidemment, notre système de récompense est activé, on prend du plaisir à ce qu'on vit, et puis on en garde de bons souvenirs. Mais ben, bien évidemment, quand il se produit des fuites d'eau qui nous surprennent, des choses comme ça, ben, Bien évidemment, là, tout de suite, eh bien, on prend beaucoup moins de plaisir à ce qui arrive et on en garde de bien plus mauvais souvenirs. Et puis, il y a des personnes aussi qui n'aiment pas les surprises. C'est des personnes qui, souvent d'ailleurs, cherchent à contrôler ce qui se passe autour d'elles et elles n'aiment pas les surprises parce qu'elles ont peur que ça les déstabilise et puis parce qu'elles en sont déçues. Et avec Dieu, eh bien, il faut avoir le cœur bien accroché parce que quand on n'aime pas les surprises, eh bien, justement, il faut être bien accroché avec lui. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, par exemple, avec Dieu, c'est toujours, les choses se passent toujours autrement que ce que l'on avait pensé. Par exemple, quand le peuple réclame et pense que, eh bien, un roi doit être grand et fort, eh bien, Dieu, lui, choisit un berger tout simple en la personne de David. Là où les hommes préfèrent les prédicateurs éloquents et puis les leaders charismatiques, eh bien, Dieu choisit un homme simple, doux, qui ne sait pas trop parler, selon son propre aveu, en la personne de Moïse. Quand la loi dit œil pour œil et dent pour dent, eh bien, Jésus nous appelle à ne pas juger et à nous aimer les uns les autres. Là où le peuple, et on l'a vu il n'y a pas longtemps, espérait un sauveur conquérant, un sauveur qui allait repousser les Romains et redonner à Israël sa souveraineté, eh bien, Dieu envoie son Fils en toute humilité pour venir sauver l'humanité d'une mort éternelle. Et tous ces exemples-là, eh bien, on pourrait les multiplier dans la Bible, ces exemples qui montrent que Dieu n'est pas là où on l'attend. Et dans ce passage que nous venons de lire, eh bien, Jésus lui aussi n'est pas là où on l'attend. Notre récit, il commence sur les bords du lac de Tibériade, là où tout a commencé. En effet, rappelez-vous, Pierre, qui est appelé encore à l'époque Simon, André, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, pêchent tous ensemble. Et Jésus passe, il demande à Pierre de pouvoir monter sur sa barque, il enseigne la foule de la barque, puis il dit à Pierre, va en eau profonde pour jeter le filet, parce que ils avaient pêché toute la nuit déjà et ils n'avaient rien attrapé. Et Pierre s'exécute et le filet, il remonte rempli de poissons qui est prêt à craquer et il demande aux autres de venir l'aider. Et devant ce miracle, et après avoir entendu les enseignements de Jésus, eh bien Pierre se rend compte de sa nature pécheresse. Et il se jette aux pieds de Jésus en se rendant compte de tout cela, saisi d'une grande crainte. Mais Jésus va le relever et lui adresser une vocation de pêcheur d'hommes et l'inviter à le suivre. Ça n'est donc pas pour rien que notre récit se passe à cet endroit-là. Et puis, ce récit intervient après deux premières apparitions collectives de Jésus. Nous le voyons au chapitre précédent, au chapitre 20. Et quand on prend ce récit et qu'on le considère dans son contexte et dans sa globalité, eh bien, il me semble que au début de ce récit, Pierre doit être en proie à tout un tas de différentes pensées. Son triple reniement doit encore le hanter quotidiennement, probablement. Cette fameuse nuit, la nuit de la Sainte Cène, la nuit du repas de Pessah, là où Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il allait, mourir, eh bien, Pierre, lui, avait dit, « Mais moi, je te suivrai en prison et jusqu'à la mort. » Et Jésus lui avait annoncé alors son triple reniement. Mais Pierre avait été catégorique, « Non, je ne te renierai pas. » Pourtant, quelques heures plus tard, Pierre le reniait trois fois et au chant du coq, il pleurait amèrement. La culpabilité et la honte devaient certainement le ronger au moment où notre récit démarre. Certes, Jésus lui était apparu à lui personnellement, comme à Marie-Madeleine, comme on le voit en Luc 24. Certes, Jésus était apparu à ses disciples de façon collective, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Mais il semble qu'à aucun moment, une occasion ne s'est produite où Jésus ou Pierre a saisi une perche pour parler, évoquer, revenir sur ce reniement. Il semble que quelque part, d'un certain point de vue, l'abcès n'a pas été crevé. Et puis, d'autre part, dans le chapitre précédent, eh bien, Jean nous dit que lors de la première apparition, Jésus souffle sur les disciples, leur envoie l'esprit et il les envoie en mission. Alors, il y a de quoi être désorienté pour Pierre. Et qui ne le serait pas quelque part à sa place? Lui à qui Jésus a dit qu'il bâtirait son Église en se fondant sur lui, tel un roc. Lui qui a reçu les clés du royaume des cieux. Lui qui est censé être le leader de la future communauté des disciples. Eh bien, il a renié trois fois son maître. Et maintenant, il est censé être en mission, partir en mission, mais comment cela est-il possible? Est-il encore légitime, véritablement? Est-ce que le disciple que Jésus aimait, Jean en l'occurrence, n'est pas plus qualifié que lui pour cela? Ce disciple qui, lui, est allé jusqu'au pied de la croix pour suivre Jésus lors de cette fameuse nuit où Pierre a renié son maître? Les questions se bousculent dans la tête de Pierre. Les pensées positives s'entrechoquent avec les pensées négatives. Les souvenirs le hantent et il ne peut pas s'empêcher de ressasser sur le passé. Alors, pour trouver un peu de calme et de paix, il décide de se changer les idées. Il décide de s'occuper pour ne plus penser. Il décide d'aller faire ce qu'il sait faire le mieux encore, d'après lui, c'est bien c'est de pécher. Il se réfugie dans ce qu'il connaît, dans ce qui le rassure, dans ce qui lui est familier. Il retourne vers ce qu'il connaît pour être finalement, vers ce qu'il pense être finalement sa seule identité, celle d'un simple pécheur. Et comme souvent, nous pouvons nous identifier à Pierre. Nous aussi, il peut nous arriver dans notre vie, eh bien, d'être désorienté, d'être perdu, d'être rongé par la culpabilité et par la honte, de nous dire que nous ne sommes pas légitimes là où nous nous trouvons, de nous comparer aux autres et de nous dire qu'ils sont plus qualifiés que nous, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille ou que ce soit d'une manière générale. Les autres disciples voient, ils savent, ou peut-être ils devinent simplement que Pierre n'est pas bien, parce que finalement, on ne sait pas si Pierre en a parlé publiquement de ce reniement ou s'il l'a gardé pour lui à ce moment-là du récit. Mais les disciples décident en tout cas de venir avec lui, de ne pas le laisser seul sur cet immense lac, mais de faire corps avec lui, parce qu'ils l'aiment et qu'ils veulent se tenir à ses côtés. Ils ne savent peut-être pas comment l'aider pour aller mieux, mais ils ont choisi d'être présents à ses côtés, à ce moment-là où la houle de la vie est très forte dans la vie de Pierre. C'est la nuit, et c'est aussi quelque part un petit peu la nuit dans la vie de Pierre. Là, sur une mer de 168 mètres carrés, Pierre cherche des poissons. Dans cette nuit tumultueuse, dans ses pensées, Pierre cherche des réponses. Et il cherche des réponses avec ses amis. Mais quand quelqu'un autour de nous n'est pas bien, ça n'est pas facile de lui donner des réponses. Tout au plus, pouvons-nous lui apporter une écoute attentive et active. La nuit passe et aucun poisson n'est pêché. Ces pêcheurs aguerris n'ont pas réussi à en prendre ne serait-ce qu'un seul. Comme lors de la première pêche miraculeuse. C'est une bien mauvaise surprise. Décidément, rien ne va dans la vie de Pierre. Il ne sait même plus pêcher. Il se dit que peut-être déjà, eh bien, il est loin d'être un bon disciple, mais alors là, il ne sait même plus pêcher. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir devenir ? Et il peut nous arriver aussi d'avoir des périodes dans notre vie où nous ne savons plus trop où nous en sommes, où nous ne savons plus trop que penser. Il peut nous arriver de chercher des réponses à des questions sans en avoir, et pourtant nous avons prié pour en avoir. Nous avons lu notre Bible, nous avons demandé à des amis, à des personnes de notre famille, mais aucune réponse qu'on a pu avoir ne nous satisfait. Rien n'y fait. Et il se peut que les échecs et les sentiments d'échec s'accumulent dans notre vie sans voir le bout du tunnel. L'aube paraît sur cet échec. Pas de poisson. Les disciples doivent être fatigués. Et certains, peut-être, doivent être découragés, comme Pierre, de ne pas avoir pêché un seul poisson. C'est là qu'un inconnu les accoste du rivage et il leur demande s'ils ont quelque chose à manger. « Rien », leur disent-ils, probablement d'une voix lasse. Alors l'inconnu les invite à jeter le filet du côté droit du bateau, en leur disant qu'ils vont en trouver. Bien qu'ils ne connaissent pas cet inconnu, cet homme, eh bien ils décident de lancer le filet. Ils se disent peut-être que, au point où ils en sont, ça ne peut pas être pire. Alors donc ils lancent le filet. Et là, le filet devient lourd et ils n'arrivent pas à le remonter. Le filet est rempli de poissons. Et là, c'est la bonne surprise, c'est l'étonnement, c'est la joie, c'est l'excitation, c'est le stress positif qui pousse tous ses disciples à essayer de remonter le poisson dans le bateau en se démenant. Et parfois dans nos vies, eh bien, nous pouvons tourner en rond. Nous pouvons nous raccrocher à des choses que nous connaissons, que nous maîtrisons. Mais ça ne résout pas grand-chose. Et c'est dans ces moments-là que l'inattendu de Dieu, eh bien, peut surgir dans nos vies. Mais il faut encore être prêt à se laisser surprendre par Dieu, dont les voix ne sont pas nos voix. Il faut savoir rester ouvert, rester souple, disponible, pour faire différemment, pour vivre autrement, pour élargir nos horizons. Et quand on a le nez dans nos problèmes, quand on est préoccupé dans nos pensées, eh bien ce n'est pas toujours évident de faire cela. Et le défi que je vous propose ce matin, eh bien, c'est de laisser tomber nos sécurités, c'est d'arrêter le tumulte dans nos pensées pour faire silence et pour être prêt à nous laisser surprendre par Dieu et par nous laisser émerveiller par son action dans nos vies, tout à nouveau. Les disciples auraient pu se dire « Mais c'est qui celui-là ? Mais pour qui il se prend ? Comment est-ce qu'il sait qu'il y a du poisson là ? Encore un qui se croit intéressant. » Ils auraient pu dire à cet inconnu d'aller se mêler de ce qui le regarde. Et peut-être que il y a quelques mois de ça encore, ils l'auraient fait. Mais là, au bout de tout ce temps passé avec Jésus, eh bien, ils ont changé. Ils ne sont plus les mêmes et ils sont prêts à faire des choses qu'ils n'auraient peut-être pas faites avant. Alors, ils jettent le filet. L'année dernière, si vous vous en souvenez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça finalement, c'était à l'automne dernier, nous avons fait la campagne Écoute. Nous avons été invités à écouter Dieu de bien des manières. Et cette écoute de Dieu passe par une disponibilité de cœur, par une ouverture d'esprit, par une souplesse pour s'adapter aux circonstances que Dieu place devant nous. Être prêt à changer. Être prêt à ne plus faire comme avant. Être prêt à faire autrement. En faisant confiance à des personnes peut-être que nous ne connaissons pas. Être prêt finalement à tout, parce que Dieu intervient de manière surprenante et de manière souveraine dans nos vies. Il y a en tout cas un disciple qui, lui, est à l'écoute. C'est Jean. Quand il voit ce qui se passe, il capte tout de suite. Il fait tout de suite le lien avec la première pêche miraculeuse. Il voit les similitudes entre les deux. Il voit quelque part la main de Dieu, le style de Jésus. Et il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Pierre, lui, on le sait, il a beau être impulsif, ben, il n'est pas toujours aussi rapide que Jean. On l'a vu quand il est allé au tombeau, par exemple. Mais c'est parce que Jean lui dit ça que Pierre fait le lien. Et des fois, il suffit qu'un frère ou une sœur nous donne une simple parole, toute simple, pour que cela change le cours de notre vie, que cela illumine notre journée et la change alors qu'elle était bien chargée. Des fois, il suffit d'un simple mot pour que notre perspective soit changée. Alors aussitôt, Pierre se rhabille. À l'idée que c'est le Seigneur, bien en fait, la honte et la culpabilité reprennent le dessus. C'est un petit peu comme Adam et Ève, qui se sont couverts après avoir péché et qui s'étaient rendus compte qu'ils étaient nus alors que Dieu était en train de les chercher. Eh bien, Pierre est un petit peu pareil. Il se rhabille, il se couvre. Mais il n'en reste pas là. Il se jette aussi à l'eau avec enthousiasme. Et dans notre vie, la honte et la culpabilité peuvent parfois nous paralyser. Elles peuvent nous empêcher de vivre, nous empêcher d'entrer en relation avec les autres et avec Dieu. Nous nous disons que ce que nous avons fait a créé un fossé immense entre Dieu et nous et que rien n'arrivera plus à le combler. J'imagine bien, lors des apparitions collectives de Jésus à ses disciples dans le chapitre précédent, par exemple, Pierre se mettre un petit peu à l'écart des autres disciples pendant que les autres disciples sont tout à la joie de voir Jésus ressuscité et ils l'entourent, etc. J'imagine bien Pierre un peu à l'écart. En tout cas, moi, je m'imagine bien à sa place, comme ça. Tout simplement parce que peut-être j'aurais pensé que je ne méritais pas, à cause de mon reniement, de participer à une telle joie. Heureusement pour nous, Pierre s'est jeté à l'eau. Son amour pour Jésus était plus fort que sa culpabilité. Son désir de rédemption était plus fort que sa honte. Son désir de réconciliation plus fort que la gêne. Son besoin d'être aimé plus fort que le repli sur soi. Quand il est arrivé sur le rivage, Jésus ne l'a pas repoussé. Et Jésus fera de plus belles choses encore avec lui dans la suite de ce passage. Et cela doit nous encourager à aller vers Dieu tel que nous sommes, à nous adresser à lui, peut-être avec la culpabilité et la honte que nous avons, mais avec l'assurance que Jésus ne nous repoussera pas, qu'il ne nous jugera pas, mais qu'il nous accueillera en étant prêt à repartir avec nous. Sur le rivage, un feu de braise les attend, avec du poisson et du pain. Et le mot utilisé pour décrire ce feu de braise est le même que Jean utilisera lorsqu'il parlera du feu près duquel Pierre se réchauffe au moment de son reniement. C'est un mot qui est assez rare. C'est donc le feu quelque part du reniement, mais c'est aussi le feu de la réconciliation et de la restauration à venir. Cette réconciliation, elle n'est pas encore verbalisée, mais elle est déjà en route avec ce pain et ce poisson que Pierre et les autres trouvent sur le feu de braise. Jésus a tout préparé déjà. Il a tout préparé d'avance. Il sait par quoi Pierre passe. Il connaît ses pensées. Il connaît ses luttes. Il connaît ses combats. Mais peut-être que jusqu'ici, Pierre n'était pas encore prêt à rencontrer Jésus et à parler de tout ça avec lui. Ce temps de tumulte intérieur était peut-être nécessaire à Pierre pour le préparer à la suite. Jésus a déjà tout préparé en vue de cette future rencontre. Son pardon est prêt. Lui qui a enseigné à ses disciples que il faut pardonner 7 fois jusqu'à 77 fois, 7 fois. Lui qui, sur la croix, disait « Mon Dieu, mon Dieu, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lui, son pardon est prêt. Il est prêt pour Pierre, il est prêt pour toi. Il n'attend que toi. Cette rencontre sur cette plage, au bord du feu de braise, n'est pas seulement, eh bien, l'annonce d'une réconciliation à venir, mais c'est aussi les prémices d'une restauration future proche. Jésus a beau avoir déjà préparé du poisson sur le feu, il invite ses disciples à aller ramener du poisson pour en manger également. Il leur dit bien « apportez ». Pourtant, donc ça veut dire, il s'adresse aux sept hommes qui sont là, pourtant c'est Pierre qui y va et qui ramène les poissons. Peut-être que Pierre s'est dit, il a essayé par ce geste-là de se rattraper devant Jésus et il lui a montré qu'il était prêt à rentrer dans la tâche qu'il voulait lui confier. Je sais pas, c'est une possibilité, pourquoi pas. En tout cas, le résultat est là. Il y a 153 gros poissons. Alors les théologiens se sont un peu arrachés les cheveux pour essayer de comprendre pourquoi ce nombre-là et pourquoi pas 152, pourquoi pas 154. Déjà dès saint Augustin, il y avait cette réflexion. Et puis, eh bien, ce que l'on peut dire en tout cas, c'est que ce chiffre semble représenter l'universalisme. En ramenant ces 153 poissons, eh bien, Pierre préfigure par son acte et sans le savoir quelque part, eh bien, ce qui va arriver à la Pentecôte quand il va prêcher à 17 peuples différents et faire des milliers de convertis. Cela montre et rappelle que Pierre est la pierre, le roc sur lequel Jésus va bâtir son Église et que c'est de lui que tout va démarrer et par lui que tout va se faire. Mais il reste un point. Ces indices ont beau nous montrer qu'une réconciliation semble imminente, une restauration semble proche. Néanmoins, Pierre et Jésus n'ont pas encore eu de discussion. Ils n'ont pas encore eu d'échange. Ils n'ont pas crevé, entre guillemets, cet abcès du reniement. Alors, dans cette fin d'épisode, eh bien, j'imagine bien cette scène où les disciples sont autour de Jésus, autour du feu, en train de manger du poisson. Et puis, Jésus regarde Pierre et lui dit « Viens, viens t'asseoir à côté de moi. » Qu'est-ce que Jésus va bien pouvoir dire à Pierre ? Eh bien ça, ce sera la suite, le 18 mai.